L'évangile de Jean, non, dans l'évangile de Marc, pardon, au chapitre 10. Ah oui, interdit, je ne l'ai pas dit. Bon, pendant que vous cherchez, je vais terminer. Tiens, fais l'annonce, lève-toi, fais l'annonce. Qu'est-ce qu'il y a le 12 mars? Merci, Maria. Alors, Marc, chapitre 10. Donc, on va essayer d'exaucer la prière de notre sœur Hélène. On va parler lentement ce matin. On a une sœur qui vient d'Italie, qui est en visite ici. On vous souhaite une cordiale bienvenue. Elle parle un peu français, est avec notre sœur Marie-France qui parle Marie-France. Marie-Claire, moi les Marie, il ne faut pas vous appeler Marie parce que là, moi, c'est... Je vais massacrer votre prénom. C'est Marie-France, Marie-Claire, Marie-Antoinette, Marie-Anne. Alors, voilà. Bon, on lui souhaite vraiment une cordiale bienvenue dans la maison du Seigneur. Sentez-vous vraiment à l'aise pour partager avec nous la parole et recevoir la bénédiction que le Seigneur a. Pour chacun de nous, il y a d'autres personnes qui nous visitent pour la première fois. Soyez aussi les bienvenus. Sentez-vous vraiment en famille dans ce lieu et qu'on puisse vraiment se réjouir dans le Seigneur. Si c'est la première fois que vous entendez le message évangélique, c'est vrai que le langage évangélique, c'est un autre langage. C'est comme si un Français parlait avec un Russe et on essaie de se comprendre. Les premières fois, ce n'est pas évident. C'est vrai que c'est un autre langage. J'essaie de vulgariser le plus possible ce langage pour qu'il soit accessible à tous. Mais demandez simplement au Seigneur... qu'il ouvre votre cœur pour la pensée bien spécifique qu'il a en réserve pour chacun de nous. Et vous allez sortir d'ici enrichi, j'en suis persuadé. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre le message, mais je suis persuadé qu'à travers le message ce matin, il y a une portion qui vous est réservée. Et que si vous êtes dans ce lieu ce matin, eh bien, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que Dieu vous a invité depuis toute éternité. Vous avez donné ce rendez-vous et j'espère que vous serez richement bénis. Donc, après le culte, il y a une tasse de café au sous-sol. Pour pouvoir prendre un temps avec les frères et sœurs, mieux se connaître. Et on vous invite vraiment à prendre cette tasse de café. Il y a peut-être un biscuit aussi ce matin. Arlette, est-ce qu'il y a un biscuit ce matin? OK. Voilà. Alors, on va lire les versets 17 à 22. Le titre du message ce matin, c'est une tragédie en trois actes. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et il lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces paroles, il prit un air sombre, et il s'en alla tout triste, parce qu'il était très riche. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et on dit que Jésus-Christ est ressuscité, ça veut dire qu'il est revenu de la mort à la vie. Donc, il est vivant, on peut lui parler, il nous parle à travers sa parole. Et je peux vous certifier une chose ce matin, comme avec le jeune homme à son époque, Jésus aujourd'hui vous regarde et il vous aime. Amen. On va prier. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te remettre, Seigneur, cette méditation, Seigneur, qui vient de ta parole. Seigneur, nous te prions tu connais les besoins de chaque cœur ici ce matin. Tu connais les souffrances de chacun. Tu connais les déceptions de chacun. Tu connais aussi, Seigneur, ce besoin d'aimer et d'être aimé qui fait tellement défaut dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a tellement d'abus sexuels, physiques, émotionnels et autres. Seigneur, nous te prions de venir visiter chaque personne ici ce matin, de répondre aux besoins de chacun. Et de nous rappeler, Seigneur, malgré la misère qui est dans ce monde, que ce monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas le tien. Ce n'est pas celui que tu as créé, mais c'est celui que l'homme a voulu avoir sans toi. avec tous ces désastres, avec le péché qui domine sur cette terre et qui fait tellement de ravages. Merci, Seigneur, parce qu'un jour, nous t'avons rencontré, tu nous as visités. Et, Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, des héritiers de ton royaume. Tu nous as donné une nouvelle espérance, non pas basée sur ce que la société nous offre, mais sur ce sur quoi tu nous offres pour l'éternité. Et tu nous promets qu'un jour, tu reviendras nous chercher pour mettre fin à toute cette misère et recréer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et quand nous regardons les signes des temps, Seigneur, nous savons que ta venue est proche. Que nous puissions garder nos yeux là-haut, parce que c'est de là que tu vas revenir, et que tu puisses vraiment bénir ta parole ce matin. Que l'homme puisse s'effacer, que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place qui lui revient, parce que c'est ta parole que nous voulons entendre être prêchée ce matin. Et c'est en Jésus-Christ que nous te demandons. Le peuple de Dieu dit... Alors, ce ne sont pas toutes les histoires où nous pouvons dire « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Parce que nous allons voir ici une histoire en trois actes dont la fin est tragique. Et acte 1, je l'ai intitulé, une triste décision. Et le rideau de cette pièce de théâtre, il se lève, sur une triste décision. Sur la scène, nous retrouvons deux principaux personnages. Le Seigneur Jésus qui est un homme riche. Et je ne peux pas décrire le Seigneur Jésus comme je le voudrais, j'en suis incapable. Pardon. Tous les philosophes, tous les poètes, tous les théologiens et tous les sages de ce monde réunis ensemble ne peuvent pas décrire le Seigneur Jésus-Christ. Essayer de définir ou de décrire le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme essayer de vider l'océan avec une louche. On n'y arrive jamais, tellement que cet homme, il est à part des autres, et il est tellement à part des autres que la parole nous dit que c'est Dieu qui a tout créé, qui s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ et qui est venu nous visiter pour non pas nous juger, nous condamner, mais pour nous sauver. Et nous sauver de quoi? Nous sauver d'un jugement, parce qu'un jour, on aura tous à comparaître devant Dieu. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit que tous les êtres humains, autant hommes, femmes, auront à rencontrer, à rendre des comptes de ce qu'ils auront fait dans leur vie. Et on appelle ça le jugement dernier. Les uns seront dans la présence de Dieu, les autres seront chassés de loin de la présence de Dieu. Et le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu prendre sur lui le châtiment qu'on méritait pour tous nos péchés. Et quand on accepte ce qu'il a accompli sur la croix pour nous, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui mes péchés, vos péchés, de façon personnelle, et en retour, vous recevez la justice de Dieu, eh bien, quand il arrivera ce jugement dernier, la parole nous dit que vous ne serez point jugés, mais que vous allez entrer, vous allez vivre, vous allez régner sur cette nouvelle terre que Dieu va créer. Alors, c'est intéressant, on a un corps qui vieillit, mais lorsque Dieu ressuscitera toutes choses à la fin des temps, la Bible nous dit que notre esprit va recouvrir un nouveau corps, le même corps que Jésus avait quand il est ressuscité. Et ce corps, il va devenir incorruptible, il ne vieillira plus, il ne sera plus sujet aux maladies, il ne sera plus sujet à avoir des rides, à faiblir et à nous faire souffrir, mais ce sera un corps parfait comme Dieu a toujours voulu que nous en ayons. Hein. Et nous savons que c'est le péché, hein, la mort, quand le péché est entré dans le monde, la Bible nous dit que la mort aussi est entrée, et la mort, eh bien, c'est aussi la mort physique pour l'homme. Le deuxième personnage, c'est un homme dont la Bible dit qu'il était riche. Et j'aimerais le décrire pour vous ce matin, parce que c'est un homme qui a réussi dans la vie et qui possède tellement de belles qualités qu'il a attiré l'admiration de tous ses contemporains. Je vous invite à fixer un court instant vos regards sur ce jeune homme que Jésus aimait. Et la première chose que nous remarquons chez cet homme, c'est son désir, son empressement, son enthousiasme à apprendre davantage. Il est écrit qu'il a couru vers Jésus. Cela laisse entendre qu'il y avait un empressement et un enthousiasme débordant à en connaître davantage sur Dieu. Et j'espère que c'est aussi votre désir ce matin, que vous êtes dans ce lieu pour en apprendre et en connaître davantage sur la personne de Jésus-Christ qui est Dieu fait homme. Il n'était pas comme certaines personnes, ce jeune homme que nous voyons, il n'était pas comme certaines personnes que nous voyons aujourd'hui dans plusieurs de nos églises, qui entrent parfois en laissant tomber sur leur chaise, croisant les bras, attendant avec impatience que la réunion se termine afin de passer à autre chose à la maison. Ils font partie de ceux qui viennent le dimanche matin sans enthousiasme, sans désir d'en apprendre davantage sur Dieu et combien le temps est long pour ces gens-là. Et en ce qui me concerne, le fait d'être enthousiaste, d'être empressé et impatient d'en apprendre davantage sur Dieu est un premier point positif pour ce jeune homme. La deuxième chose que nous remarquons chez cet homme, c'était quelqu'un de humble. Il est écrit qu'il se jeta à genoux devant Jésus. Luc dit que c'était un dirigeant qui possédait de grands biens, qui occupait une position importante et qui était riche. Il possédait tous ses biens alors qu'il était jeune, alors que certains, ou je dirais la majorité, réussissent à posséder des biens alors qu'ils ont trimé dur pendant toute leur vie, et souvent ces biens, eh bien, ils les accumulent à la fin de leur vie. Et pourtant, ce jeune homme est accouru vers Jésus et il s'est mis à genoux devant lui. Frères et sœurs, on n'est pas tellement riches. Hein? Qui est riche ici? Merci, je me sens à l'aise. Et ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas mis à genoux devant le Seigneur Jésus? Une très belle leçon ici de ce jeune homme. Hein? Parce que ce jeune homme, on va le voir un petit peu plus loin. On nous dit que quand Jésus a commencé à se mettre en chemin, il a couru devant Jésus-Christ et s'est mis à genoux devant lui. Il s'est mis à genoux devant tous les gens du village. Hein? Quelle humilité de la part de ce jeune homme riche, qui devait être super bien habillé, un costard qui coûtait assez cher, hein, qui n'a pas été acheté chez Corona et chez Carrefour, il devait avoir quelque chose de solide sur lui. Et pourtant, devant tous ces miséreux, ces misérables, il s'est humilié pour se placer à genoux devant le Seigneur Jésus, parce qu'il était impatient et empressé d'en connaître davantage sur la personne de Dieu. Frères et sœurs, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas mis à genoux devant le Seigneur Jésus? La quatrième chose que attendez, je vais essayer de voir ce que je peux dire. Est-ce que je peux sauter? En ce qui me concerne, le fait d'être humble est un deuxième point positif pour lui, parce que dans notre société aujourd'hui, les gens ont tellement une autre opinion d'eux-mêmes que la plupart pensent qu'ils sont trop bons pour se voir refuser un jour d'entrer au ciel. Et je remercie le Seigneur pour l'esprit d'humilité de ce jeune homme qui est venu avec empressement se jeter aux genoux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez m'excuser, moi je dois me déshabiller un peu parce que je vais tomber. Je vais allumer le micro. S'il y en a qui veulent partager mon fardeau, venez ce soir en avant. Voilà. La troisième chose que nous remarquons chez cet homme, c'était quelqu'un de courageux. Verset 17, la première partie du verset 17, c'était quelqu'un de courageux. Il est écrit, alors que Jésus se mettait en chemin, ce jeune homme s'est jeté à ses pieds, s'est mis à ses genoux, et ce, devant les gens ordinaires, les pauvres et les estropiés. Il ne s'est pas demandé ce que les gens penseraient de lui. Il n'a pas agi comme Nicodème qui était venu voir Jésus de nuit de peur de se faire remarquer. Non, il est venu voir Jésus de jour, il s'est jeté à genoux devant Jésus, et ce, devant toute la population de la ville. Frères et sœurs, quel courageux, quel courage, frères et sœurs! Il était enthousiaste, désireux d'en connaître davantage sur Dieu. Il était humble et il était courageux. Et je dis que cet homme qui était courageux, eh bien, c'est un troisième point positif pour lui. La quatrième chose que nous remarquons, c'était quelqu'un qui avait discerné que Jésus était différent des autres. Verset 17, deuxième partie du verset 17. Lorsqu'il s'est mis à genoux devant le Seigneur Jésus, il a dit « Bon maître, bon maître ». Il savait qu'il y avait quelque chose en Jésus qui était différent de tous les autres, de tout ce qu'il avait vu chez les autres. Jésus va alors lui dire, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Est-ce que Jésus était en train de dire qu'il n'était pas bon? Au contraire, Jésus était en train de dire qu'il était Dieu. Il lui dit, « As-tu compris pourquoi je suis bon si je t'ai dit qu'il n'y a personne d'autre que Dieu qui est bon? » En d'autres mots, si je ne suis pas Dieu, je ne suis pas bon, jeune homme. Et ces gens qui saluaient Jésus, mais qui rejetaient l'idée qu'il était Dieu, avait besoin de se rappeler que si Jésus n'est pas Dieu, alors Jésus dit qu'on ne peut pas dire de lui qu'il était bon. Ce jeune homme reconnaissait la bonté de Dieu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est mis à genoux, à courber la tête en disant « Bon maître ». Et je dis que cela est un quatrième point positif pour lui, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas reconnaître que Jésus-Christ est Dieu fait homme. La cinquième chose que nous remarquons, c'est quelqu'un qui se préoccupait de sa destinée éternelle, la fin du verset 17. Il vient vers Jésus, il lui pose cette question, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » On est en présence d'un religieux, « Que dois-je faire? » Ça, c'est la religion, « Que dois-je faire pour plaire à Dieu? » « Que dois-je faire pour ne pas être condamné? » « Que dois-je faire pour ne pas être jugé? » Remarquez qu'il ne vient pas chercher une guérison pour son corps ou intercéder pour un membre de sa famille qui est malade. Il ne vient pas pour savoir comment être heureux dans la vie ou chercher conseil ou connaître un endroit où il pourrait placer son argent pour devenir encore plus riche. Ce qui l'intéresse, ce sont les choses qui sont appelées à durer éternellement. Frères et sœurs, est-ce que c'est votre préoccupation ce matin? Les choses qui sont appelées à durer éternellement. C'est ce qui devrait nous préoccuper tous, parce que nous sommes tous appelés à vivre éternellement dans la présence de Dieu ou éloignés de Dieu pour l'éternité, dans un endroit que la Bible appelle l'enfer, qu'on n'aime pas trop dire aujourd'hui dans nos églises. Mais si le ciel, le paradis existe, on doit quand même dire que l'enfer existe aussi. Et Jésus l'a confirmé, il n'y en a pas un autant que lui dans toutes les Écritures qui a parlé de l'enfer. Et Dieu a tout fait pour nous épargner d'aller en enfer. Il a vécu l'enfer sur la croix pour nous, afin que nous puissions avoir accès au paradis. C'est extraordinaire. Lui qui était sans péché, il est devenu péché pour nous, afin que nous puissions être reconnus justes aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, ça c'est l'amour de Dieu, ça. Est-ce qu'on sait pourquoi Dieu nous a aimés, pourquoi Dieu nous aime? Dieu ne nous devait rien. Il a envoyé son Fils, qui était sans péché. C'est-à-dire qu'il s'est fait homme dans la personne de Jésus. Il a dit, parce que je t'aime toi, parce que je t'aime toi, je vais venir mourir pour toi, parce que je veux que tu passes éternité avec moi dans ma présence. Ça, c'est le message de l'Évangile. Et tu peux vivre la religion que tu veux, tu peux faire les œuvres que tu veux. Il n'y a aucune religion, aucune œuvre qui va être capable de t'effacer un seul péché. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus arriver, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Seul le sacrifice de Jésus peut effacer vos péchés, peut effacer mon péché. Et ça, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation personnelle avec mon Dieu qui s'est fait homme. Amen. Important de saisir ça ce matin. Ce qui l'intéresse, ce sont les choses qui sont appelées à durer éternellement. Je dis que c'est un autre point positif pour ce jeune homme, parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas intéressés à entendre des paroles qui interpellent leur conscience et à entendre une bonne nouvelle. Les gens veulent vivre le moment présent. Ils veulent s'amuser. Ils veulent fêter pour oublier leurs problèmes. Et combien il y en a des problèmes? Combien il y a taux de suicide effarant dans notre monde? Combien on vend des médicaments, il y a une surdose de médicaments qui se prend dans ce monde. Et c'est sûrement pas parce que les gens sont heureux. Quand les gens boivent de manière excessive, c'est quand même pas pour être heureux, c'est pour oublier qu'ils sont malheureux. Et quand ils reviennent de leur, on appelle ça une brosse, nous, au Québec, le lendemain, quand ils reviennent, en tout cas le lendemain de la veille, eh bien, leurs problèmes sont toujours là, ils doivent recommencer à boire pour oublier leurs problèmes. La drogue, je trouve que c'est une belle expression, on dit l'enfer de la drogue. Oui, oui. Il y a des gens qui ne sont pas encore allés en enfer et qui la vivent l'enfer à travers la drogue. Oui. Et on ne se drogue pas parce qu'on est heureux. Hein. Tous ces signes hein, d'alcoolisme, de droguer, ça fait simplement manifester combien l'être humain a un vide de Dieu dans son cœur. Et tant aussi longtemps qu'il n'a pas rencontré la personne de Jésus-Christ, il peut adopter n'importe quelle philosophie, il peut pratiquer n'importe quel sport, il peut aller au cinéma comme il veut, il peut s'entourer de n'importe qui autour de lui, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas rencontré la personne de Jésus-Christ, il peut se remplir, combler le vide qui est dans son cœur, ce vide d'amour, eh bien, il continuera toujours à chercher et à être malheureux. Soit qu'il noiera sa peine dans l'alcoolisme, soit qu'il se piquera pour oublier, finalement, que c'est un enfer qui vit sur la terre, mais Jésus est vraiment venu pour nous donner cet amour. Pas cet amour qui vient des hommes, cet amour qui vient d'en haut. C'est important, aucun homme, aucune femme peut nous donner cet amour parce qu'il vient d'en haut. Les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu cherchent à être aimés par un homme, cherchent à être aimés par une femme. Mais ce n'est pas un amour inconditionnel. Je t'aime pas pour ce que tu es, je t'aime pour ce que tu me rapportes. Et quand tu me rapportes plus, je t'aime moins. Et quand tu me rapportes de moins en moins, je t'aime plus. Mais pas avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son amour, peu importe ce qu'on fait, son amour ne diminue pas. Il est toujours égal. Et à travers sa parole, il déverse en nous son amour. Il continue à déverser son amour à travers sa parole qui est fortifiante, qui est encourageante, qui est stimulante. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné une espérance vivante à travers la résurrection. La mort, ce n'est pas la fin de tout pour le chrétien. C'est le début d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Voici un homme qui dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter? Ça veut dire qu'un héritage. La personne n'est pas obligée de me donner l'héritage. Je ne mérite pas d'hériter. On fait de moi un héritier. Et le garçon, il a très bien compris ici.
Que dois-je faire? Le problème, c'est son faire. Il aurait pu dire, comment avoir la vie éternelle? Mais c'est un religieux, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et là, Jésus va bien discerner. Hein? Il avait discerné, lui, la bonté qu'il trouvait dans le Seigneur Jésus. Il était intéressé aux choses spirituelles, surtout celles qui sont appelées à durer éternellement. Et moralement, on n'avait rien à reprocher à ce jeune homme. Lorsque Jésus va aborder le sujet des commandements avec ce jeune homme, il va répondre, « Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse, j'ai obéi à tous les commandements depuis ma jeunesse. » Remarquez que Jésus ne va pas le réprimander ouvertement suite à cette réponse, parce qu'il savait qu'il n'avait jamais vraiment observé tous les commandements. Extérieurement, on ne pouvait rien lui reprocher, mais intérieurement, son cœur n'appartenait pas à Dieu. Frères et sœurs, ce matin, extérieurement, quand je regarde tous vos beaux visages, on n'a rien à vous reprocher ce matin. Mais intérieurement, est-ce que votre cœur appartient à Dieu ce matin? Est-ce que votre cœur appartient à Dieu? Moi, je ne suis pas capable de donner dans vos cœurs ce matin. Mais le Seigneur Jésus est capable de donner dans vos cœurs. Et si votre cœur n'appartient pas à Dieu ce matin, confessez votre péché, confessez ce qui prend la place de Dieu dans votre vie pour rétablir votre relation avec Dieu comme elle doit être. Amen. Moralement, il était aussi bon que n'importe quelle personne qui se trouve dans cette salle ce matin. Personne ne pouvait l'accuser d'avoir fait quelque chose de mal. Il ne forniquait pas, il ne vaudelait pas. C'était un jeune homme bien. Et si vous l'aviez eu comme voisin, vous n'auriez rien eu à lui reprocher. C'est un citoyen au-dessus de tout soupçon. Il est ce genre de personne que vous auriez voulu avoir comme associé en affaires. Et s'il avait joué votre église, vous auriez vu en lui un futur diacre et même peut-être votre futur pasteur. Il était moralement irréprochable. Et lorsque vous regardez ce jeune homme, vous comprenez pourquoi Marc écrit « Jésus l'ayant regardé l'aima ». C'était quelqu'un de gentil à qui on n'avait rien à reprocher. Ouais. Et dans une autre version, on dit « Jésus le regarda avec amour ». Gloire à Dieu, hein? Et c'est ce regard que Jésus porte sur chacun de vous aujourd'hui. Pas un regard de condamnation, pas un regard de haine, un regard d'amour. Un regard d'amour, il connaît ton besoin, il veut faire de toi un héritier du royaume de Dieu. Ce matin, il s'agit juste que tu lui ouvres ton cœur. Et c'est le plus difficile à faire, parce qu'il n'y a pas de poignée du côté de Jésus qui frappe à ta porte. La poignée, elle est à l'intérieur de ton cœur, et c'est toi qui dois lui ouvrir la porte de ton cœur pour qu'il puisse entrer. Et c'est une grande responsabilité, parce que c'est toi qui détermine où tu vas passer l'éternité, avec Dieu ou sans Dieu. Cet homme qui devait abandonner la seule chose qui l'empêchait d'avoir la vie éternelle va se retrouver perdu pour l'éternité. Il a tout raté. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui pensent que s'ils réussissent à posséder tout ce qu'ils désirent dans la vie, ils ont réussi dans la vie, et qui pensent qu'ils sont prêts à rencontrer Dieu et qu'ils vont ouvrir leur porte du paradis. Quelle erreur monumentale. Mais cette histoire n'a pas une fin heureuse. Remarquez ce qu'il a dit au Seigneur Jésus-Christ, verset 19. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Écoute attentivement ce que le Seigneur Jésus va lui dire. Verset 19, « Tu connais les commandements. » Et là, il fait la liste des commandements. « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Au premier coup d'œil, on a l'impression que le Seigneur Jésus est en train de dire à ce jeune homme, « Si tu veux avoir la vie éternelle, observe toute la loi. » Mais en étudiant attentivement le passage, frères et sœurs, vous découvrez que Jésus est en train d'enseigner exactement le contraire ici. Il est en train de dire à ce jeune homme que même s'il obéissait à toute la loi, il ne pourrait pas entrer dans le royaume de Dieu. Il veut lui faire comprendre ce que nous savons déjà. Personne ne sera reconnu juste devant Dieu pour avoir obéi à toute la loi. Dieu rend les hommes justes devant lui par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait tous ceux qui croient en lui. Il n'y a pas de différence entre eux parce que tous ont péché, nous dit la Bible, et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Alors, on est privé de la présence de Dieu parce qu'on est tous des pécheurs, on a tous péché. On n'aime pas le mot pécheur non plus, mais pécheur, c'est ce que la Bible dit, hein, quand on désobéit. Ici, quand on désobéit à la loi belge, on est des criminels, puis la Bible a dit que quand on désobéit à la loi de Dieu, ben, on est des pécheurs. Et la Bible nous dit qu'on est tous des pécheurs. On est tous des pécheurs. Et on est privé de cette présence glorieuse de Dieu, maintenant et pour l'éternité. Et encore une fois, je reviens à la croix. La croix, si elle est une réalité pour vous, vous découvrez qu'elle est la solution, finalement, pour votre destinée éternelle. Et qu'elle est aussi une solution pour le maintenant, cette joie, cette paix que le monde ne peut pas vous donner, que vous ne pouvez pas recevoir de personne, que vous ne pouvez pas donner, cette paix, cette joie, elle vient d'en haut. Amen. Ouais. Et comme notre frère l'a dit dans sa présidence tantôt, C'est la rencontre de Jésus-Christ, elle est marquante, elle est bouleversante, elle est transformante. La seule chose que vous allez regretter quand vous allez rencontrer Jésus-Christ, si vous ne l'avez pas fait, c'est de ne pas l'avoir rencontré avant. Et Dieu vous fait une grâce extraordinaire ce matin parce que vous entendez l'Évangile. Je ne suis pas en avant pour vous parler de religion. Je suis ici pour vous parler, vous présenter une personne qui s'appelle Jésus-Christ, qui vous aime, qui porte un regard sur vous comme il l'a porté pour ce jeune homme, qui voulait tellement hériter de la vie éternelle, qui cherchait tellement une réponse à sa destinée éternelle. Et quand on commence à se poser des questions, savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis ici, qu'est-ce qu'il y a après la mort, Dieu commence à travailler dans nos cœurs. Mais j'irai plus loin que ça. Quand on se pose ces questions, c'est que Dieu a déjà commencé à travailler dans nos cœurs. Maintenant, encore une fois, la responsabilité, elle est de notre côté. Est-ce que je dis oui ou si je dis non à l'invitation que Dieu m'a faite? Est-ce que je dis oui, je veux devenir un héritier du royaume ou si je dis non, je veux continuer à faire ma vie comme je la fais maintenant, avec ses hauts et ses bas? Alors, pourquoi alors Jésus va-t-il aborder le thème des commandements avec ce jeune homme? Parce que Jésus voulait lui faire réaliser, lui qui semblait avoir tout, qu'il lui manquait une chose, c'était de reconnaître jusqu'à quel point il n'était pas aussi bon qu'il le croyait et que son cœur était méchant. Et Jésus va choisir de lui faire réaliser cela à travers la loi. Dans un premier temps, il lui dit, « Écoute, jeune homme, tu es intéressé à savoir ce que tu dois faire pour hériter la vie éternelle? Pas de problème, il te suffit d'obéir aux commandements. » « Ah, dit-il, j'ai obéi à tous les commandements. » depuis ma jeunesse. Alors Jésus va lui montrer qu'il n'a obéi à aucun des commandements, alors que le jeune homme pensait le contraire. Le jeune homme, il sous-estimait ce qu'il vivait sous... Pardon? Voilà, sous-estimait, voilà. sous-estimait l'état de son cœur. Il y a combien de gens ici qui sont prêts à lever la main pour dire, écoutez, méchanceté dans le cœur de l'homme. Évident, hein? On le sait par une chose, pas nécessairement par ce qu'on fait, mais simplement par ce qu'on pense. Quand on dit, « Hey, as-tu vu celle-là, comment elle est habillée? Hey, as-tu vu ce qu'elle a l'air ce matin? As-tu vu lui, comment il est? » Frères et sœurs, dans le monde, ça se fait couramment, mais la Bible dit que c'est un péché, hein? Le cœur, frères et sœurs, il est pourri, hein? Et c'est Dieu qui le transforme. C'est Dieu qui le transforme pour le rendre semblable à celui de Jésus-Christ, qui, malgré tout ce qu'on lui a fait, a dit de ses ennemis, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ouais. Et il continue encore aujourd'hui. Ouais. Pardonne à ces gens qui sont dans cette salle ce matin, qui ne me connaissent pas encore. Seigneur. Ouvre leur esprit pour qu'ils puissent commencer une nouvelle vie avec moi, dit Jésus. Je n'ai pas le temps de vous expliquer les trois façons de pouvoir avoir la vie éternelle, mais je vais en donner une qui je n'entrerai pas dans tous les détails, mais ça se voit à partir du verset 13 du même chapitre dans l'Évangile de Marc, chapitre 10. C'est, vous pouvez mourir très jeune, et si vous mourrez avant que vous puissiez faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, vous allez directement au paradis. Et là, on parle des bébés, on parle des jeunes, des tout jeunes enfants qui ne font pas encore la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien, ils vont pas dans un endroit obscur. Quand on regarde ce que Jésus dit à partir du verset 13 et suivant, eh bien, ces enfants s'en vont directement au ciel. Et ça, c'est ma conviction. Vous n'êtes pas obligé de la partager. C'est ma façon de donner les Écritures, en tout cas. C'est suite à cette discussion que Jésus va avoir concernant les enfants que ce jeune homme, il va apparaître à un moment donné. Et le Seigneur Jésus dit que les petits-enfants sont prêts pour le royaume de Dieu et que les petits-enfants qui meurent avant d'avoir l'âge de raison sont reçus dans le royaume de Dieu. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, soyez, ayez un cœur qui est disposé comme les petits-enfants. Et les petits-enfants, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font, les petits-enfants? Ils ont une foi, ils sont petits, mais ils ont une foi grandiose, quoi. Ouais. Je l'ai déjà dit ici, je vais le dire parce qu'il y a beaucoup de nouveaux ce matin. Quand mes enfants, ils avaient 2, 3, 4 ans, on avait une grande table à manger à la maison. Et là, moi, je m'amusais. Ça faisait pas plaisir à ma femme. Mais moi, je les faisais monter sur le bout de la table, un bout. Et là, je me mettais à l'autre bout. Puis je disais, allez, saute dans les bras de papa. Mais il n'y en a pas un qui me disait, papa, tu vas t'enlever. Enlève-toi pas, papa. Hein? Ils avaient la foi que je les attraperais. Hein? Alors, ils sautaient dans mes bras. Maintenant, si j'avais demandé à mon garçon de 15 ans, monte sur la table. Là, ma femme n'aurait pas été vraiment d'accord. Monte sur la table. Et lance-toi dans mes bras, il m'a dit, papa, tu vas t'enlever. plus on vieillit, plus la foi diminue. Et c'est pour ça que quand on rencontre des gens de 50, 60 ans qui ont vécu des choses épouvantables dans le monde, il est difficile de leur faire croire, de les amener à croire que Jésus puisse être bon, que Jésus ne leur veut aucun mal. Et de dire, écoute, dans ta vie, tu as rencontré des gens qui t'ont dit, fais-moi confiance. Tu as rencontré des gens en qui tu as mis ta confiance, en qui tu as placé ta foi, qui t'ont déçu, qui t'ont trompé. Donne cette chance à Jésus-Christ, lui ne te décevra jamais. Jamais il te décevra. Si tu savais le prix qu'il a payé pour avoir une relation avec toi, il est mort pour toi. Dans le monde, qui est mort pour toi? Qui parmi les personnes qui t'ont dit qu'ils t'aimaient ont osé mourir pour toi? Personne. Souvent, quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, bon débarras. Mais pas Jésus. Jésus est mort pour vous. Ça, c'est important. Et il est revenu à la vie. Et c'est cette nouvelle vie qu'il veut vous donner. La vie du ressuscité. Amen. Voilà, on va laisser tomber les enfants. On va aller maintenant. Il y a une deuxième façon pour avoir la vie éternelle. Là, je dois vraiment passer par-dessus. Vous lirez ça sur le site de l'Église. Qui, en passant, est excellent. Je l'ai vu échanger cette semaine. Il faut aller sur le site Internet de l'Église. On est aussi branché avec une radio chrétienne. Donc, vous pouvez avoir de la musique en continu, en faisant toutes sortes de travaux sur votre bureau. Mais il est vraiment bien aménagé, vraiment rafraîchi. Il est complètement transformé. Et je veux profiter de l'occasion pour remercier ceux qui ont travaillé. Je ne sais pas qui a travaillé sur le site. Je ne connais pas tous les individus. Oui. Guy et François et qui ont fait un travail colossal parce que tout a été changé. C'est vraiment magnifique. Je vous invite à y aller. Il y a une deuxième façon de pouvoir avoir la vie éternelle, c'est observer toute la loi et ne pas la transgresser du tout. Et là, vous avez alors la vie éternelle. Mais ce n'est que la pure théorie, puisque je ne rentrerai pas dans les détails, mais puisque la Bible dit que tous ont péché. Donc, il est impossible d'avoir la vie éternelle à travers les commandements. Ce jeune homme riche, Jacques dit que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ce jeune homme riche avait besoin de réaliser cela parce qu'il était légaliste, et malgré qu'il le fait qu'il ne le montrait pas, il était très fier de lui. C'est donc avec ça en tête que Jésus va lui dire, « Tu connais les commandements. » Et ce, non pas pour lui montrer qu'il ne pouvait pas être sauvé en les observant, mais juste pour lui montrer le contraire. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas tous les observer, et qu'il ne pouvait donc pas être sauvé. Voilà donc théoriquement la deuxième façon d'avoir la vie éternelle. Et aussi ce qui se cache derrière le fait de vouloir pratiquer tous les commandements, c'est une question de religion. Lui commet l'adultère, moi je ne le connais pas. Lui c'est un menteur, moi je ne suis pas un menteur. Lui c'est un voleur, moi je ne suis pas un voleur. Mais juste en disant ça, là, tu pèches contre le deuxième commandement que Jésus nous a donné, aime ton prochain comme toi-même. Tu n'as pas d'amour envers ton prochain quand tu fais ça, c'est un esprit de jugement. Donc déjà, tu pèches contre toute la loi en désobéissant au deuxième. Il y a une troisième façon pour la vie éternelle, et c'est la seule qui est la bonne, c'est celle de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Ce jeune homme riche avait l'âge de raison, il avait désobéi au commandement, donc les deux premiers, on peut les oublier. Il était impossible pour lui d'être sauvé par ces deux moyens. Il n'y avait plus qu'une chose à faire, c'était de renoncer à lui-même, de porter sa croix et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Jésus est en train de lui enseigner ici. Et il le fait d'une manière, je le répète encore, il le fait d'une merveilleuse manière en l'abordant avec les 10 commandements. Nous savons que les 10 commandements se divisent en deux parties. Les 4 premiers traitent de notre relation avec Dieu, c'est-à-dire une relation horizontale. Et les 6 derniers, eh bien, traitent avec notre prochain, c'est-à-dire de façon horizontale. Et Jésus résume les 10 commandements en deux seuls. Tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il résume les 10, finalement, en donnant ces 2 commandements. Et le jeune homme, regardez ce qu'il dit au verset 20 ici. Le jeune homme répondit, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus lui dit, « C'est bien, mais il ne manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. » Jésus savait en disant cela qu'il venait de mettre le doigt là où ça fait mal, parce que ce jeune homme aimait plus l'argent que Dieu, et il aimait plus l'argent qu'il aimait son prochain. Il n'aimait pas Dieu de tout son cœur, et il n'aimait pas son prochain comme lui-même. Non seulement avait-il désobéi à un des commandements, mais dans son cœur, il avait contrevenu aux 10 commandements. Et Jésus va lui prouver en lui faisant une seule demande. Il n'essayait pas de montrer à ce jeune homme qu'il pouvait aller au ciel en donnant tout son argent. Il essayait simplement de lui montrer que ce qui n'allait pas avec lui, c'est qu'il aimait l'argent. Jésus essayait de faire réaliser qu'il n'aimait pas Dieu et qu'il n'était pas aussi bon qu'il le pensait, que son cœur était mauvais et qu'il ne pouvait pas se comporter ainsi dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit, « C'est le temps pour toi de prendre une décision. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Observez ce jeune homme. Observez ce jeune homme, frères et sœurs. Il est devant Jésus. Je l'imagine, hein? La sueur commence à apparaître sur son front. Il sort son mouchoir, il éponge son front à quelques reprises, hein? Hey, il est frappé, là, hein? Il transpire de partout, quoi. Il se mord les lèvres. Son cœur bat de plus en plus vite. Ses mains sont moites. Les anges du ciel se sont arrêtés. Ils regardent. Les anges regardent. Ils arrêtent. Ils attendent la décision du jeune homme. Vont-ils pouvoir se réjouir, frères et sœurs? Mais voilà que le diable vient chuchoter aux oreilles de ce jeune homme ses paroles. Ne sois pas ridicule. Faudrait être fou pour accepter de tout vendre ce que tu as. Pense aux souffrances qui t'attendent si tu devais tout vendre. Veux-tu finir dans la rue? Fais pas ça. Et là, le jeune homme, il est là, il attend. Il n'a pas encore donné sa réponse à Jésus. Il y a une lutte dans son cœur, comme il peut avoir une lutte dans votre cœur ce matin. Et finalement, pardon, et il se dit, non, je ne peux pas faire ça. Dieu ne peut pas me demander de tout donner ce que j'ai. C'est pas possible. Et au verset 22, il est écrit, et il s'en alla tout triste. Les anges dans le ciel sont tristes. Les démons se réjouissent en disant, nous le tenons, il a renoncé à Dieu plutôt qu'à son argent. Il a refusé d'entrer dans le royaume de Dieu. Quelle victoire! Frères et sœurs, les deux derniers actes sont plus courts. Rappelez-vous que le titre du premier acte, c'est une mauvaise décision. Le deuxième acte, le titre que je lui ai donné, c'est une mort soudaine. Nous retrouvons trois récits d'hommes riches dans le Nouveau Testament. Et même s'il n'est pas dit que ces trois passages font référence au même individu, je vais faire comme si c'était le cas. Donc, vous n'êtes pas obligé de croire que ce sont les mêmes hommes, mais je pense que entre riches, c'est à peu près la même chose qu'on vit. Hein? Dans Luc chapitre 12, versets 16 à 21, notre histoire continue. Nous lisons Jésus qui dit cette parabole. « Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait, se disant lui-même, « Que vais-je faire? Je n'ai pas de place où garder toutes ces récoltes. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. Je vais en construire de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et tous mes biens. » J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tous mes récoltes, tout mon bien. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup, en fait, je vais me dire à moi-même, j'ai beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses, dit Jésus, pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Pour celui qui est chrétien, ce n'est pas un problème, hein? Il saurait quoi faire avec le surplus en excédent, le surplus ou l'excédent qu'il aurait ramassé. Il le donnerait pour soutenir différentes missions, hein, sans hésiter. Il donnerait pour soutenir de son église locale, sans hésiter. Il donnerait pour soulager la misère de ceux qui sont dans le besoin, sans hésiter. Ce ne serait pas difficile pour un chrétien de savoir où il devrait placer son argent, le surplus de son argent. Par quoi? Pourquoi? Parce qu'il a pris une décision un jour pour le Seigneur Jésus. Et il se rappelle qu'il est un étranger, un pèlerin sur cette terre. Et ce qu'il recherche surtout, c'est de s'amasser des richesses là-haut dans le ciel, où les vers ni la rouille ne peuvent détruire, où les voleurs ne peuvent pas forcer les serrures ni dérober. Mais cet homme ici vit un dilemme qu'il veut garder pour lui-même. Ce dilemme, c'est qu'il veut garder pour lui-même tout ce qu'il a amassé. « Oh! » dit-il, « je sais ce que je vais faire. Je vais construire des greniers encore plus grands. » Alors, il entre chez lui, s'installe sur son bureau, commence à faire des plans pour la construction de ses nouveaux greniers. Et tout à coup, on frappe à la porte. « Qui est-ce? » demande-t-il. « C'est la mort. Je viens pour toi. » « Écoute, la mort, retourne d'où tu viens. J'ai pas le temps, je dois remettre ses plans le plus vite possible à l'entrepreneur pour faire construire mes nouveaux greniers. » Mais la mort met sa main osseuse sur la porte et ouvre toute grande celle-ci. « Retourne d'où tu viens, reviens une autre fois, ne sois pas si pressé. » Ne souffle pas ton odeur de mort sur toi, sur moi, va-t'en. Tiens, prends cet argent, profite-en, va t'amuser. La mort lui répond, je ne veux pas de ton argent, et l'argent ne peut pas m'empêcher de te prendre avec moi aujourd'hui. La mort s'en va en portant avec elle l'âme du malheureux. À quoi sert son argent maintenant? À quoi cela lui sert-il d'avoir voulu s'agrandir pour s'enrichir davantage? À quoi servent maintenant tous ses biens? Qui va en profiter? Et que servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou y a-t-il quelque chose qu'un homme puisse donner pour racheter son âme? Cet homme s'en alla tout triste, verset 22. Il a pris une mauvaise décision et la mort est venue le chercher. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un troisième acte. Une terrible destinée. Ça, c'est le titre de mon troisième acte, une terrible destinée. Tournez dans Luc chapitre 16 pour ceux qui ont leur Bible. Nous allons terminer notre histoire et terminer le message en lisant la dernière partie du verset 22 et 28. Ici, le deuxième riche que je vous ai partagé, c'était une parabole. Le troisième riche dans Luc 16, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire, c'est un vécu. C'est la seule place dans tout ce que Jésus raconte qu'il donne des noms. Une parabole, lorsque Jésus raconte une parabole, il n'identifie jamais le nom d'un individu. Ici, il va parler de Lazare, il va parler d'Abraham, il va parler du riche aussi. Et je pense que Jésus voulait être très clair pour savoir qu'il y a deux endroits où on peut aller après avoir vécu sur cette terre. Verset 22, le riche mourut et un petit peu plus loin, il fut enterré. Dans le séjour des morts, verset 28, il leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Et là, verset 28, il demande qu'on envoie quelqu'un avertir ses frères afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Quelle chose épouvantable! Quelle chose épouvantable, frères et sœurs! Il est dans le séjour des morts en attente du jugement dernier. Et dans le jugement dernier, on dit qu'ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre. Frères et sœurs, l'enfer, ce n'est pas juste être privé de l'absence de Dieu pour l'éternité. Jésus n'a pas souffert pour rien. Hein? L'enfer, c'est un lieu de souffrance terrible. Et on est dans une société qui se moque de l'enfer, où on se déguise en diable, on se déguise en démon. Mais l'enfer est une réalité pour Jésus. L'enfer est une réalité pour la parole de Dieu. Et Dieu nous en a parlé parce qu'il nous aimait et qu'il a tout fait pour nous épargner d'y aller. Dieu nous a ouvert les portes du ciel à travers la personne de Jésus-Christ. C'était merveilleux. C'est merveilleux. Frères et sœurs, le riche était un homme qui était plus intéressé à garder son argent que de garder les commandements. Il voulait toujours obtenir plus, plutôt de se contenter de ce qu'il avait besoin pour vivre. Voilà un homme qui a sacrifié son âme sur l'autel pour l'amour du siècle présent. Ce même homme qui avait tellement de biens va finir par tout perdre. Il avait choisi l'or plutôt que Dieu. Il avait choisi l'argent plutôt que le maître de la vie et il a tout perdu. Chers amis, le Seigneur Jésus avait demandé à cet homme de renoncer à son argent parce qu'il savait que c'était là son péché. Aujourd'hui, s'il devait s'adresser à nous, il ne nous dirait pas « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres ». Parce que ce n'est pas là notre problème, frères et sœurs. Le Seigneur sait que pour certains, le problème, c'est l'orgueil. Que pour d'autres, c'est la crainte des hommes. Que pour d'autres, c'est la calomnie. Ou encore l'amour de l'argent. Mais je peux vous dire que peu importe ce qui vous empêche de vous donner entièrement au Seigneur Jésus, ne vaut vraiment pas le coup de perdre votre âme pour cela. Vous qui entendez ce message, vous avez déjà passé l'âge de raison et qui avez déjà péché et vous avez déjà péché. Il n'y a donc plus qu'un seul espoir pour vous, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé du jugement à venir. La parole dit ceci à travers l'apôtre Paul, « Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car l'homme croit dans son cœur et Dieu le rend juste devant lui. L'homme affirme avec sa bouche et Dieu le sauve. L'Écriture déclare en effet, « Quiconque croit en lui ne sera pas déçu. » Ne sera pas déçu. Maintenant, quand on parle d'un péché d'orgueil, frères et sœurs, il est extrêmement difficile, peu importe l'âge qu'on a, d'être capable d'avouer qu'on est des pécheurs. Parce que c'est de reconnaître qu'on a un cœur qui est tortueux. C'est de reconnaître qu'on a vécu sans Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et il est difficile d'arracher de la bouche d'un être humain « Je suis un pécheur devant Dieu ». J'ai transgressé, j'ai désobéi à sa loi. Et Dieu n'est pas là pour nous humilier. Dieu dit, écoute, demande-moi pardon et c'est terminé. Je ne te demanderai pas de faire des sacrifices. Je ne te demanderai pas de faire des chemins de croix. Je t'ai pardonné. Reconnais que lui a pris sur lui la charge de tous tes péchés. Toi, tu te décharges en confessant ça. En confessant, tu dis, Seigneur, je te demande pardon, je me repens, je suis un pécheur, Seigneur, et merci. Merci de me trouver juste en Jésus-Christ. Merci de l'avoir envoyé pour prendre sur moi, sur lui mes péchés. Merci, Seigneur. C'est le message de l'Évangile. Merci, Seigneur, d'avoir fait de moi un enfant. Et donne-moi la capacité en Jésus-Christ de marcher, de vivre comme tu me le demandes. Amen. C'est le message de l'Évangile. Frères et sœurs, si vous croyez, mon ami, qu'il est mort sur la croix en prenant sur vous, sur lui vos péchés, et que vous, si vous croyez suffisamment en lui pour confesser son nom, non seulement il vous sauvera, mais il vous gardera, il vous protégera. Amen. Prions. Je vous invite à courber la tête.